La guitarra no tiene una ambición multitudinaria, sino una misión confidencial.
La guitare est toujours confidentielle. Elle n'est pas pour la grande manifestation.
Box.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À bon Richardot.
À défaut de réécrire le futur chaque samedi à 19h sur France Culture, Jukebox vous réinvente un passé, voyage plus ou moins imaginaire dans le temps, en archives et en musique. La musique et la guitare ce soir comme soif de liberté. Nous plongeons en effet dans les affres des dictatures argentines, gouvernance très en vogue sur place dans les décennies 60 à 80, qu'elles soient civiles ou militaires. En 1976, une junte renverse la veuve Perón et s'arrime au pouvoir sur fond d'ordre moral, d'autoritarisme et de disparition nocturne. Ce temps terrible de la dictature est pourtant aussi un moment d'effervescence musicale sans précédent, voyant se développer le rock argentin. La chanson, prudemment, se politise, devenant l'une des seules expressions possibles d'une jeunesse muselée. Dans cette histoire, on croisera des mégaphones, de longs bâtons, une gourou ukrainienne, des catholiques fervents et des DJ roublards. Ce soir, Argentine, le rock et la junte. Comme un moteur soudain siphonné de son essence, la musique continue un moment en roue libre, mais se délite rapidement à mesure que les membres de l'orchestre réalisent ce qui se joue au fond de la salle. Le silence électrique et instable qui suit est recouvert par un enchevêtrement de voix. Les militaires qui ont ouvert les portes du théâtre se mettent à gueuler comme des automates dans leur mégaphone « Évacuation, évacuation !» « Alerte à la bombe !» ajoute une voix nasillarde. Dans la foulée, le directeur de la salle qui s'effrayait un chemin sur scène s'empare du micro du chanteur dans lequel il s'égosille, affirmant au contraire qu'il n'y a pas de problème de sécurité, que le concert va bientôt reprendre, que le public doit rester. Ça dure comme ça une bonne minute d'appels paradoxaux, mais parmi les derniers rangs des chevelus, des grappes entières sont contraintes à coups de matraque de sortir. On entend quelques cris, mais surtout un râle de mécontentement. Une nouvelle fois, la fête est gâchée. Sur scène, le directeur du théâtre lâche son micro de rage et livide se fait vertement remettre en place par un gradé menaçant. Arrivé dans la rue, dont les deux extrémités ont été bouchées, les spectateurs sont, pour certains, dirigés vers un bus qui stationne, le moteur allumé. Les autres sont dispersés à coups de gourdin. Des joints sont arrachés, des bouteilles brisées. Bientôt ne reste plus sur le trottoir que des mégots, du verre pilé et des prospectus divers annonçant concerts de rock ou manifestations politiques. Le bus rempli de chevelus est reparti. À l'intérieur, les gamins en seront quittes pour une nuit inconfortable dans les cellules humides d'un commissariat de quartier, quelques coups de poing dans les côtes peut-être, mais ils seront relâchés le lendemain, tout ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste un quota d'arbitraire, l'échantillon d'une jeunesse vouée aux gémonies par le pouvoir et qu'il s'agit de faire flipper, le cirque en marche d'un État totalitaire soucieux d'étaler sa toute puissance, permettant au passage aux militaires d'éprouver leur petit lustre, leur uniforme et leur flingue, de jouir un peu eux aussi, qui viennent souvent de milieux défavorisés avec ce qu'on peut imaginer de violence. Bref, les militaires plastronnent, les chevelus râlent, le bus se dirige vers le commissariat et les musiciens emballent leur matériel. Chacun est dans son rôle. Buenos Aires, une nuit de dictature au milieu des années 1970.
grita y grita. Camino, camino lento, y en el cuerpo quiero escuchar a un negro. No, no puede ser. Grita y grita. Mira en qué pequeñas caras tristes tienen miedo a la pantera. No, no puede ser.
Des ruines, il y a une voix qui crie, chemin lent et chaud, une voix que mon corps refuse d'entendre. Non, je ne peux pas voir ça, ces petits visages tristes. Aujourd'hui, du ciel et à toute heure, il pleut des armes. Canto desde el fondo de las ruinas, le chant du bas des ruines, publié en avril 1972 par le groupe de rock progressif Akelar, autrement dit le sabbat, ces assemblées nocturnes de sorcières, ce qu'était en train de devenir aux yeux et aux oreilles des généraux argentins les concerts de rock, lorsque le groupe Akelar s'était constitué en 1971 autour du chanteur Emilio del Guercio. Et de fait, la chasse aux sorcières finirait mal pour les rockeurs, Akelar se séparant en 77, contraint à l'exil.
Lentamente, casi como para que no nos diéramos cuenta.
Lentement, afin que nous ne le remarquions pas, une machine à horreur se déchaînait contre l'innocent et le méfiant. Au milieu de l'incrédulité des uns, de la complicité des autres et de la stupeur de beaucoup, la guerre avait commencé, une guerre oblique, différente, une guerre primitive dans ses procédures, mais sophistiquée dans sa cruauté.
Contra delirantes de la destrucción.
Nous luttons contre les léninistes qui, derrière leur masque de rédempteurs sociaux, veulent nous détruire.
Por eso vemos sus inexplicables
alianzas. D'où leurs alliances inexplicables, leurs victimes inexplicables. Des victimes sans valeur stratégique ou tactique pour la plupart.
Por eso los vemos escribiendo en las paredes. Viva la muerte.
C'est pourquoi nous les voyons écrire sur les murs « Viva la muerte » et c'est la seule fois où ils disent la vérité. Tout comme au cours des autres siècles, le fléau a longtemps balayé le monde, de même l'humanité d'aujourd'hui semble être le témoin d'une nouvelle et étonnante épidémie, la volonté de tuer. Et bientôt, ainsi que l'amiral Emilio Massera le déclarera, à travers la volonté de la junte d'annihiler les oppositions de gauche, la jeunesse et le rock argentin subiront les foudres militaires. Dans Buenos Aires, ville quadrillée où la police secrète, les funestes pototas traduisaient la clique, agissent en toute impunité, la culture et le rock deviennent des cibles de choix. S'approvisionner en musique deviendra d'ailleurs de plus en plus dangereux, des indiques traînant chez les disquaires, dressant la liste des disques jugés subversifs et surveillant qui achète quoi. Au besoin, toutes les personnes nécessaires devront mourir pour assurer la sécurité du pays, déclarait aussi en 75 le général Videla qui présidera la junte l'année suivante. Mourir où qu'il soit, à Buenos Aires, dans la Pampa et même dans la si belle ville de Neuquén.
Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Sayhuenque, grito que está volviendo en tu desbocado, otro pehuenche. Del cielo la honda noche, se oye del viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van quieren volver, aguas que van quieren volver, río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Sol que se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes, besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas, quiere rayen dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van quieren volver, aguas que van quieren volver, río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén.
Quimei Neuquén, autrement dit la belle Neuquén, cette ville située au centre du pays, chanson interprétée en 1967 par le chanteur José Larralde. Solide carrure et moustache de gaucho, Larralde, connu aussi sous le surnom d'El Pampa, réputé pour ses ballades qui, avant de devenir chanteur, avait exercé tout un tas de métiers, maçon, mécanicien, chauffeur de tracteur ou soudeur, et dont les paroles dénonceront inlassablement les injustices et les inégalités. Thank you. les turbulences qui traversent alors la société argentine, il faut mesurer l'importance qui occupe depuis longtemps l'armée, dont les interventions perturbent régulièrement le jeu politique. Le 28 juin 66, une junte militaire finit par prendre officiellement les commandes du pouvoir, chassant de son fauteuil le président Arturo Illia, élu 3 ans plus tôt. Baptisée « Révolution argentine », cette junte est conduite par le général Onganía. Elle justifie ce putsch par, je cite, « la généralisation de la démoralisation et du scepticisme, l'apathie et la perte du sentiment national, la détérioration chronique de la vie économique et financière », mais aussi par la montée des opposants marxistes. Face à cela, les militaires, par ailleurs catholiques fervents, entendent moderniser le pays et résoudre le problème de l'instabilité politique plus ou moins permanente depuis 1955, lorsqu'un précédent coup d'État avait chassé du pouvoir l'idole nationale Juan Perón. Vous êtes perdu, bien des Argentins devaient l'être également. Dites-vous qu'à l'époque, en Argentine, la valse des pouvoirs et des coups d'État est quasi permanente. Bref, symbole de cette reprise en main musclée, la junte met donc au pas les étudiants, dont le nombre a presque doublé en une décennie. Des étudiants qui avaient obtenu le droit de se constituer en association politisée ou de participer à la gestion des universités. La peur de la montée d'un péril rouge amène le général Onganía, le lendemain de sa prise de pouvoir, à siffler la fin de la récré. Le 29 juin a lieu ce que l'on a appelé la nuit des longs bâtons. L'évacuation brutale de plusieurs universités de Buenos Aires à coups de matraques, de gaz lacrymo et d'autres amabilités. Plusieurs centaines d'arrestations ont lieu. Toutes les organisations politiques étudiantes sont interdites. Dans la foulée, le nouveau maire de Buenos Aires lance une campagne visant à un retour à l'ordre moral. Il faut dire que cette fin des années 60, la jeunesse argentine, à l'instar des autres, est gagnée par les sirènes de la contre-culture. Et tandis que se développe derrière Mercedes Sosa le mouvement de la Nuevo Canzoniero dans la lignée du grand Atahualpa Yupanqui, un mouvement destiné à surmonter la vieille opposition entre tango et folklore, la jeunesse urbaine, celle de Buenos Aires, de Córdoba ou de Mendoza, s'en tige de rock. À Buenos Aires, cela se passe notamment dans le quartier populaire et cosmopolite de Once, où l'on trouve nombre de pensions de familles bon marché et de chambres d'étudiants. Alors que la dictature d'Onganía bat son plein, une bande de fans de rock prend l'habitude de se retrouver les soirs à la Cueva, un bar de jazz. Ils viennent notamment des quartiers voisins de Flores ou de Caballitos. C'est une bande de rêveurs fauchés. Quand il fait beau, ils dorment sur les bancs des parcs ou des places publiques. L'hiver, ils se cotisent et se partagent une chambre d'hôtel à 6 ou 7. Peu importe, cheveux longs, vêtements colorés, ces gamins vivent pour l'art et la musique. Et les soirs, donc, ils rejoignent la bohème de la Cueva, où là, ils parlent de rock et, à l'occasion, font le bœuf sur scène. À la fermeture du club, vers 4 heures du matin, tout ce petit monde descend l'avenue Pueyrredón et se retrouve à la Perla. Un étrange endroit, cette Perla, un bar situé face à la gare de Once et où ces rockers se mêlent aux vendeurs ambulants qui attendent le départ des premiers trains de banlieue. Il y a aussi de grandes tablées d'étudiants en histoire ou en sociaux qui révisent leurs examens, sirotant des litres de café au lait. L'ambiance des lieux tient d'ailleurs de celle d'une bibliothèque. On y cause des heures durant de philosophie grecque, de marxisme, de Jack Kerouac, du bouddhisme ou bien de science-fiction. Pas question toutefois de faire trop de bruit. Alors, parfois, entre deux discussions, les rockers embarquent une guitare ou un harmonica et se réfugient au sous-sol. Là, au fond du couloir, près des toilettes, ils esquissent des projets de chansons. Ainsi, au début du mois de mai 67, émergent des toilettes pour hommes de la Perla, ce qui deviendra l'acte de naissance de la vague rock en Argentine. Ce titre s'appelle « La balsa », autrement dit le radeau, seul moyen pour un jeune homme accablé de tristesse et de solitude de rejoindre l'endroit désiré, le radeau qui pourtant, il le pressent, le conduira à la folie et au naufrage. Me falta. publié en juillet 67 par le groupe Los Gatos, tandis que dans l'hémisphère nord, la jeunesse américaine s'apprête à plonger dans le Summer of Love, cette balsa, ce radeau sur lequel un jeune rêve d'embarquer. Ce radeau, certains y avaient vu le symbole des drogues, même si ces années 60, on ne trouve pas grand-chose dans les milieux rock ou étudiants argentins, à part quelques amphétamines. Non, ce radeau, c'est sans doute surtout une métaphore de l'horizon, constituée par plus de liberté. Pour la première fois d'ailleurs, le rock se chante publiquement en espagnol. À l'époque, seuls les rockers mexicains le faisaient. Encore, ces derniers s'en tenaient-ils à des reprises de chansons américaines. Là, l'Argentine creuse son propre sillon. Les premières publications spécialisées font d'ailleurs leur apparition. Le retour de bâton ne tardera pas. Tandis que la balsa s'écoule rapidement à 250 000 exemplaires et ouvre au groupe les portes des plateaux de télé, les descentes des flics se multiplient à La Cueva, le club de jazz voisin de La Perla, conduisant à la fermeture définitive de l'établissement sur décision d'un juge. En effet, à partir de 1966, s'est lancée une vaste campagne de promotion de la moralité. Il s'agit essentiellement, on l'a compris, pour la junte, d'endiguer au sein des classes moyennes la montée des idéologies de gauche et notamment du communisme, symbole ultime de perversion. Mais on mélange tout. Les flics se mettent à arrêter les gars portant les cheveux trop longs, les filles portant des mini-jupes, les couples non mariés stationnant dans les mêmes voitures. Alors que la libération sexuelle gagne les mentalités, la pornographie est pourchassée, la distribution de Playboy interdite. Pire, des lampadaires sont installés pour éclairer les bancs publics et éviter les manifestations d'affection déplacées. Dans le même esprit, les gérants de boîtes de nuit se voient enjoints d'améliorer l'éclairage de leurs lieux afin de ne plus laisser de place au doute. On dénonce aux épouses les errances nocturnes de leurs maris. Tandis qu'une nouvelle vague cinématographique fait son apparition, l'armée fait fermer des salles populaires, censurant toutes les scènes semblant légitimer l'adultère, l'avortement, la prostitution. Blow Up d'Antonioni est expurgé de 5 minutes. La fréquentation des cinémas s'en ressent. De 7 films par semaine et en moyenne par Argentin en 1960, on tombe vite, une décennie plus tard, à 2 petites séances hebdomadaires. L'Argentine se change en pays d'hommes tristes.
Nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Vive de azul, porque azul no tienes domingo. cómo ver, cómo ver, que olvidar, cómo ver. Una vez vi que no cantabas, y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. Cuánta ciudad, cuánta sed, y tu nombre solo. Solo cuánta ciudad, cuánta sed, y tu nombre solo.
Sauvez votre peau, la ville vous a apporté l'été. Mettez de la couleur en vous, car quand il meurt, tous les hommes sont blancs. Vous avez des pieds et des mains, laissez-les courir, laissez-les grandir, vivez en bleu et riez, enfin tant pleurer vous donne froid. A estos hombres tristes, à ces hommes tristes, composés par Luis Alberto Spinetta pour son groupe Almendra, l'autre pionnier avec Los Gatos du rock argentin dans le premier album du groupe, publié en 1969. Pourtant, malgré les tentatives d'encadrement de la culture par les militaires, la jeunesse continue de bouillonner. Des groupes de jeunes se retrouvent les dimanches après-midi au Parque Centenario ou au Rivadavia, deux parcs de Buenos Aires, dans des rassemblements joyeux et contre-culturels, s'échangeant disques et revues musicales clandestines. Car le rock incarne désormais une forme de résistance. On écoute les nouvelles productions en cachette et en groupe. Et forcément, les autorités redoutent que ces cénacles musicaux ne débouchent sur quelques déstabilisations politiques. D'autant que les paroles des chansons de certains groupes empruntent des chemins détournés et poétiques. France Culture, Jukebox, ce soir, Buenos Aires, rock contre matraque.
Y cuando te crea alcanzar.
publié en 1970 ce Camino, le chemin, par le groupe Arco Iris, l'arc-en-ciel, un groupe fondé 3 ans plus tôt par le chanteur Gustavo Santaolalla, qui voulait alors opérer la fusion du rock et du folk latino-américain. Arco Iris était alors devenu l'emblème d'un courant hippie, mélange de flower power, bandeau dans les cheveux, moustache et jean moulant, et de philosophie hindouiste. Le groupe Arco Iris fait d'ailleurs alors partie d'une communauté mystique dirigée par une guide spirituelle ukrainienne, une certaine Dana, dont Gustavo s'est amouraché malgré le fait qu'elle a 13 ans de plus que lui. Pourtant, et tandis que Gustavo expérimente avec ses acolytes les strictes exigences de la communauté de Dana, où sont interdits les consommations de viande, d'alcool, de drogue et même le sexe, le reste du pays plonge dans le chaos. En 1970, le général Onganía, qui présidait aux destinées de l'Argentine, est poussé vers la sortie, remplacé par un autre général, lequel est destitué à son tour moins d'un an après par un troisième larron à galon qui tente bien de sauver le régime menacé par une violente guérilla des factions d'extrême gauche, mais qui doit se résoudre à convoquer des élections en 1973. C'est alors que le vieux Perón, Juan Perón, exilé en Espagne, revient au pouvoir à la faveur de la première élection libre depuis belle lurette. Quoique presque octogénaire, Juan Perón revient dans une immense ferveur, lui qui déjà dans les années 40 et 50 avait été aux commandes de la nation, instaurant ce que l'on avait appelé le péronisme, prônant plus de justice sociale, une politique industrielle volontariste, mais aussi l'élimination de toute opposition politique. Bref, c'est le retour d'un homme à poigne, respecté de beaucoup. Sauf que le jour de son arrivée, un massacre a lieu parmi ses partisans, illustrant des fissures dans ses rangs. Moins d'un an après son retour, Perón passe l'arme à gauche, remplacé par sa femme Isabelle, dont le vieux avait fait sa vice-présidente. Isabelle qui tente bien de réduire au silence les guérilleros marxistes, mais qui se trouve à son tour, un an après son accession au pouvoir, chassée par le retour des militaires, nouveau coup d'État, mais promis ce sera le dernier, archive France Inter, le 24 mars 1976.
Un coup de force en douceur en Argentine, la présidente Perón a été déposée par les chefs de l'armée, mais c'était prévu. Ils l'ont envoyée dans le sud du pays en résidence surveillée. Ces trois chefs de l'armée ont immédiatement mis en place un cabinet militaire, en précisant toutefois que ces officiers ne doivent pas être considérés comme des ministres. Pour le moment, leur programme n'est pas très clair. On sait déjà qu'après 21 mois de pouvoir de la femme de Perón, l'Argentine doit résoudre au plus vite, Ralph Pinto, le triple problème de la corruption, de la guérilla urbaine et de la banqueroute économique.
Ce coup d'État n'est donc pas une surprise, vous l'avez dit, un journal l'a même presque annoncé hier soir à Buenos Aires. On en parlait depuis des mois. En décembre, au moment de la rébellion de certaines unités de l'armée de l'air, on s'était aperçu de la mansuétude des autres soldats, de ceux qui n'avaient pas bougé. Et puis les appels des chefs de l'armée s'étaient faits de plus en plus pressants. Ils ne voulaient plus tout seuls supporter le poids de la lutte contre les militants des organisations révolutionnaires. Ils avaient demandé sans aucun succès à la présidente d'éliminer les éléments les plus douteux de son équipe. On avait même tenté de négocier le départ de la présidente hier soir sans résultat. En fait, l'histoire de l'après-Perón en Argentine est l'illustration parfaite de la décomposition d'un système. Une inflation supérieure à 400% par an, un pouvoir d'achat qui se réduit comme une peau de chagrin, des investissements inexistants, une dette extérieure supérieure à 10 milliards ou 12 milliards de dollars. On pourrait encore parler du chômage et de la cassure de l'appareil syndical. D'ailleurs, dès l'annonce de ce coup d'État en douceur, les 62 organisations ouvrières péronistes ont appelé à la grève générale illimitée, mais leurs 2,5 millions de membres ne peuvent pas, en toute franchise, constituer un danger pour les militaires qui ont insisté dès hier soir sur la discipline dont doit faire preuve la population.
L'Argentine a donc vécu son 7e coup d'État en un demi-siècle, mais paradoxalement, cette fois, le retour des militaires au pouvoir correspond presque exactement au plan des guérilleros d'extrême-gauche. Pour ces péronistes déçus, dans bien des cas, le péronisme dénaturé était en effet le plus grand ennemi.
En effet, il pouvait encore représenter pour les couches les plus défavorisées le semblant d'un justicialisme ou d'un populisme soucieux de leurs intérêts, alors que maintenant les militaires ne pourront pas cacher leur vrai visage. Voilà le plan de l'extrême-gauche argentine. Il ne tient peut-être pas compte de la détérioration et de la détérioration de la situation, mais aussi de la détermination de ces militaires qui l'ont déjà montré dans les opérations qu'ils ont montées dans le nord du pays. le Nord qui est la citadelle traditionnelle de ces troupes d'extrême gauche.
Même si le coup d'État du 24 mars 76 était annoncé, on l'a entendu, les choses n'en restent pas moins violentes. Trois généraux s'attribuent le pouvoir, formant une junte qui, dès son discours inaugural, pose comme objectif premier de lutter contre la subversion, mais aussi contre les syndicats ou tout autre type d'opposition. Soumis jusqu'alors à des quotas, la musique rock se trouve blacklistée des ondes. Les radios qui en diffusaient connaissent des descentes de police. Les journalistes ou chroniqueurs jugés indésirables sont virés du micro. Les vinyles qui déplaisent sont furieusement rayés. Toutefois, ces opérations sont souvent conduites par des ignares qui ne comprennent pas ce qu'ils font. À l'issue de ces perquisitions musclées, ce sont les mêmes troufions peu éduqués et encadrés par des officiers brutaux et alcooliques qui gardent les portes des stations de radio, soi-disant pour les protéger des attaques des guérilleros, en réalité plutôt pour contrôler ce qui s'y dit. Mais face à des incultes, les disques jockeys n'ont parfois qu'à modifier légèrement les titres des chansons, Cocaine d'Eric Clapton se trouvant ainsi simplement annoncé comme Cooking et permis de diffusion. Notons que cette répression et cet autoritarisme sont largement facilités et financés par les États-Unis, qui voient d'un bon œil l'arrivée de ces militaires néolibéraux et farouchement anticommunistes. Les Américains, qui forment également, dès la fin des années 60, les militaires argentins aux techniques de contre-insurrection, parmi lesquelles la torture, Gégène et compagnie, s'inspirant, il est vrai, du triste génie français en la matière. Le bourdonnement des hélices de l'appareil produit un fracas terrible. Les autres ont un casque sur la tête et se causent entre eux tranquillement via les micros. Lui n'entend rien de ce qu'ils se disent, mais il rigole. Il entend d'autant moins avec le vent qui s'engouffre la porte latérale de l'avion ayant été ouverte. Il aperçoit par la trouée les lumières des dernières maisons encore éveillées. Il ignore l'heure qu'il est, cela fait longtemps qu'il ne pose plus de questions, surtout depuis l'injection qu'on lui a faite dans l'avant-bras avant le décollage. Bientôt, à l'horizon et sous l'appareil, les lumières disparaissent. Il n'y a plus rien que les vibrations de la tôle, le vent frais et brutal qui cogne et l'ancre dans laquelle s'enfonce le petit avion. Quelques minutes plus tard, ils sont au-dessus de l'océan et les choses vont vite. Le gradé, assis à ses côtés, se retourne, son sourire mauvais éclairé par le plafonnier. Lui ne comprend plus rien à ce que l'autre lui hurle. Il sait bien qu'il n'y a plus rien à entendre, plus rien à comprendre. Il essaye seulement de se figurer le bruit que son corps traversé de tremblements produira à si haute altitude dans l'eau et le silence qui, un instant plus tard, recouvrira sa mémoire.
La fiebre d'un sábado azul y un domingo sin tristezas esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz, solo un pálido adiós, y el reloj en tu puño marcó las tres, el sueño de un sol. Una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas, te hace bien, tanto como hace mal, te hace odiar. Thank you.
apretando bien las muelas. Y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Bam, bam, bam. Hojas muertas que caen. Siempre igual. Los que no pueden más se
Combien de temps de paranoïa et de solitude? Réveille-toi pour éviter de devenir fou. Ne pense pas à ce que tu es, à ce qui a été. N'y pense plus jamais. Le groupe Serujiran, formé en 78 autour du musicien Charlie Garcia pour ce titre, sorti l'année suivante dans un album critiquant les médias, les musiques à la mode, la tiédeur de nombreuses radios. Album pour lequel le groupe manque de finir en prison. L'immense ferveur qu'il reçoit pourtant semble le protéger. Serujiran qui, allant plus loin dans l'audace, prendra même la tête d'une forme de contestation, survivant miraculeusement aux foudres des généraux, attirant en 1980 60 000 spectateurs lors d'un concert où la foule scande « No se banca más, on ne le supporte plus ». Ce que l'Argentine ne supporte plus, ce sont en premier lieu le terrorisme étatique, ses enlèvements chaque nuit à travers le pays. Archives France Inter, le 27 mars 1981.
Nous étions chez nous, on était en train de dormir et on a frappé à notre porte. Cinq hommes armés se sont présentés, d'abord avant d'ouvrir, et on a demandé qui c'était. Et on nous a dit la police fédérale. J'ai ouvert, on a fouillé la maison. Ils sont entrés dans la chambre de mes enfants et ils ont mis un revolver sur la tête d'un d'eux et... Ils l'ont fait s'identifier et ils sont partis avec lui. Inutile de demander pourquoi, inutile de demander à l'accompagner. Mon enfant était très jeune et il n'avait que 17 ans. Je pourrais penser que mon fils est mort, mais je ne vois que mon fils partant de chez moi vivant. Il est sorti de chez moi entouré d'hommes armés. Il ne pouvait pas s'échapper. Je dois penser qu'il est vivant. Autrement, si je pense qu'il est mort, c'est comme si moi-même je le tuais.
La terreur légale, ces enlèvements la nuit par des groupes non identifiés, l'armée et la police opérant clandestinement, ce qui leur permet de nier toute responsabilité. La disparition pure et simple, la détresse des proches, la terreur de tous... La perversité des tortionnaires ne semblant pas connaître de limites, certains néo-nazis passant à leurs victimes des discours d'Hitler en boucle. Entre 76 et 83, en plus des 10 000 morts officiellement reconnus, ils seront ainsi près de 30 000 à disparaître sans laisser de traces, enterrés anonymement ou simplement lâchés dans des mers sombres. Certains corps sont retrouvés sur des plages dès 1977. Le mouvement des courageuses mères de la place de Mai se constitue la même année. D'autres, face à ce déchaînement de violence, choisissent l'exil.
Seguía Perón, artístico y me comí el bajón. Yo tenía 3 libros y una foto del Che. Ahora tengo 1000 años y muy poco que hacer.
J'ai eu un amour au Paraguay, mais cette fleur a brûlé, je n'ai pas réussi à lui dire oui. Je me suis exilé à Madrid, je suis allé à New York simplement parce que j'ai suivi Perón. J'ai eu un avenir comme artiste, surmonté le marasme, j'ai eu 3 livres et 1 image du Che. Maintenant, j'ai 1000 ans et très peu à faire, alors dansons. Ce rap del exilio par Charlie Garcia qu'on entendait déjà plus tôt, ici en 1984. L'exil que pourtant ne choisit pas l'ex-leader des Cerrujiran, à l'inverse de 3 millions d'Argentins qui le peuvent, et parmi eux, nombre de musiciens et de rockers. Les musiciens qui restent sur place rentrent souvent dans la clandestinité, plus question de jouer au plus malin et de contourner les interdits. De son côté, le pouvoir, pour occuper les foules et neutraliser le développement de menaces hors des radars, décide de lancer ses propres radios, finançant des concerts d'artistes qui les soutiennent, comme Palito Ortega, qui se tournera par la suite vers une carrière politique, ou bien comme Cacho Castaña. Castaña qui promeut une idéologie douteuse, estimant que le peuple argentin forme une race supérieure et qui pourtant, à l'écoute, passe pour un sympathique crooner célébrant les femmes et l'amour, comme en 1981 avec ce Para mí que son mentiras, pour moi ce sont des mensonges.
Que son mentiras, para mí que son mentiras. Dicen que el amor ha muerto, que ya no se quiere como se quería. Para mí que son mentiras, para mí que son mentiras. Dicen que ya no suspiran como suspiraban los que se querían. Para mí que son mentiras. Para mí que son mentiras, para mí que son mentiras porque creo en el amor, aunque siempre me mintieron. Para mí que son mentiras porque creo en el amor, aunque nunca me quisieron. Para mí que son mentiras porque creo en el amor, a pesar de lo que dicen. Para mí que son mentiras porque creo en el amor, aunque nunca me quisiste. Dicen que ya no se besan como se besaban los que se querían. Para mí que son mentiras, para mí que son mentiras. Dicen que ya no se miran como se miraban los que se querían. Para mí que son mentiras, para mí que son mentiras. Para mí que son mentiras porque creo en el amor, aunque siempre me mintieron. Para mí que son mentiras porque creo en el amor, aunque nunca me quisieron. Para mí que son mentiras porque creo en el amor, a pesar de lo que dicen. Para mí que son mentiras porque creo en el amor, aunque nunca me quisiste. La 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 la. Para mí que son mentiras, para mí que son mentiras. La 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 la. Para mí que son mentiras, para mí que son mentiras. La 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 la.
Cacho Castaña, para mí que son mentiras, pour moi ce sont des mensonges, 1981. Et pourtant, la vérité semble bien difficile à dissimuler. Le système s'essouffle.
Thank you.
vers 1982, la situation économique notamment devient intenable. Le chômage ne cesse d'augmenter et le cours du pesos de chuter. Face aux contestations qui s'élèvent, la vieille junte souhaite redorer son image, contrer l'impression catastrophique de ces dizaines de milliers de disparus dont les portraits font à l'étranger une bien mauvaise publicité du régime. Pour ce faire, mais où diable sont-ils allés chercher cette idée-là? Les généraux convient les Britanniques du groupe Queen à achever leur tournée sud-américaine lors de 5 concerts à Buenos Aires. Or, les militaires ne comprennent pas la musique proposée par les rockers britanniques. Quand ils entendent « We will rock you », ils ne perçoivent que le côté martial du rythme, ça parle à leurs aspirations autoritaires. Quant à l'homosexualité affichée de Freddie Mercury, qui constitue pour eux une dangereuse déviance, ils ne veulent pas la voir. Lorsque ce même chanteur fait monter sur scène des mères de disparus, en revanche, la retransmission du concert à la télévision se brouille. Comme l'explique le chercheur Eliel Markman dans un excellent article paru en 2012, ces militaires ne comprennent pas l'incroyable message d'espoir et de liberté transmis par Queen aux Argentins. Ce concert, c'est un formidable malentendu, prélude de la confusion profonde qui s'empare du pays entre 82 et 83. Car pour retrouver de la popularité, le pouvoir ne recule devant rien, tentant même un ultime coup de poker, une invasion précipitée de l'archipel des Malouines, quelques cailloux balayés par un vent glacial, sans ressources ni réel intérêt stratégique, mais qui, à 500 mètres de ses côtes, possède le mérite d'être disputé par les Britanniques. 5 mois après le concert de Queen, la guerre est donc déclarée avec Londres. Certes, le soutien des Argentins derrière leurs soldats est là. Pourtant, la déroute militaire au cours de ces 2 mois de conflit sanglant est telle que la dictature n'y survivra pas. Si ces vieilles carnes ne sont même plus en mesure de défendre les intérêts de la nation, il est temps de passer à autre chose. En décembre 82, 100 000 personnes défilent pour protester contre la guerre sale, toutes ces disparitions. Les généraux capitulent, annoncent la tenue d'élections libres. En octobre 83, Raoul Alfonsín, un civil qui a su créer autour de lui un consensus, est élu président. Ainsi se referme ce numéro de Jukebox. Ce soir, Argentine, le rock et la junte. Rendez-vous sur franceculture.fr pour réécouter, télécharger cette émission. Vous y retrouverez également la liste des morceaux diffusés, les références des archives et la possibilité d'exporter les playlists. Merci à Chouchen Gergaillan et à Valentin Henry pour leurs recherches historiques, à Antoine Vuillose de la discothèque, à Amélie Briand-Lejeune pour les archivina, ainsi qu'à Anne Fleury pour sa réalisation. Ce soir, à la technique, c'était Pierre Monteil. Au micro, à Maurice Chardot, à samedi 19h pour un prochain Jukebox.